Ouais, bonjour Blockbuster, bonjour Frédéric. Alors, toujours génial vos dernières éditions sur Dragon Ball, son auteur, tout ça, Tekken et tout le bazar. Voilà, alors, en fait, j'aimerais bien qu'il y ait un jour un Blockbuster sur le monde du GN et aussi sur les femmes dans le monde un peu du jeu de rôle et tout ça. Parce que là, malheureusement, bah oui, malheureusement, encore aussi, il y a Anne Vétillard, qui est on va dire, une ancêtre du monde du jeu de rôle en France et du jeu de rôle aussi grandeur nature, qui est décédée le 1er avril et qui était une nana qui a quand même écrit dans Casus Belli, dans des magazines, qui a traduit et écrit les premiers jeux de rôle français. Et c'était une des premières femmes à le faire. Et ça serait cool de peut-être, pas de parler d'elle obligatoirement, mais un peu de parler du côté un peu jeu de rôle, le côté masculin, féminin, tout ça. Je sais pas, c'est une idée comme ça que je me disais. Voilà. Bonnes émissions et puis à bientôt. Et bisous.
Oui, bonjour Blockbuster, auditeur assidu de toutes les émissions. J'ai juste une petite demande, Frédéric. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit spécial Macross ou Macross Robotech avec Mos Espada, etc. Mais surtout Macross et avec le triangle amoureux et toute cette saga qui m'a totalement emporté quand j'étais jeune et ce film que j'ai vu au cinéma en 95 et qui m'a également emporté. Je compte sur toi. Merci.
To be or not to be, not to be.
Il faut qu'on parle d'un truc qui m'obsède depuis des années dans Le Roi Lion de chez Disney. Si je vous demande quel événement vous a le plus marqué dans ce dessin animé culte, il y a de fortes chances que vous me disiez « Oh, la mort de Mufasa !» Pourtant, il y a selon moi un événement plus important que la mort du père de Simba dans Le Roi Lion. Plus important encore que les rêves de Toxico, Hakuna Matata, de Timon ou Pumba. Plus important que savoir pourquoi Rafiki est le seul animal à avoir l'accent africain alors que ce sont tous des animaux africains. Ce qui m'obsède par-dessus tout, ce sont les gnous. Les gnous, voyons! Ces bovidés qui sont les vrais faiseurs de rois du cycle de la vie, mais qui ne le savent même pas. Comme toutes les autres espèces du roi lion, on le voit au début du film, les gnous courbent l'échine devant Mufasa et Sarabi, les Kate et William du Serengeti. Alors évidemment qu'un gnou seul, il gère difficilement un lion contrarié, ça s'appelle la chaîne alimentaire. Mais des gnous effrayés qui cavalent ensemble, eh ben, ça t'écrase un roi sans même s'en rendre compte. Pourtant, est-ce que les gnous en tirent une quelconque gloire ou la moindre culpabilité? On n'en sait rien, parce que dans Le Roi Lion, jamais on leur donne la parole. Dans Le Roi Lion, les gnous ont effectué ce que j'appelle une révolution par inadvertance. Et c'est ça qui me fascine au plus haut point dans Le Roi Lion depuis que je l'ai vu. La force incroyable d'un troupeau qui court ensemble et la relative ignorance de ce dernier devant son propre pouvoir. Pour moi, c'est ça la leçon marquante du Roi Lion. Aucun pouvoir sur cette terre ne résiste au peuple, ce bétail, celles et ceux dont on dit qu'ils ne sont rien, s'ils décident d'aller dans la même direction. Le problème, c'est que le plus souvent, ce peuple est ignorant de son propre pouvoir, car il lui arrive d'être bête à manger du foin.
France Inter. Blockbuster.
Juste ici, ça va.
Frédéric Siglis.
C'est l'histoire de la vie.
Connaît Le Roi Lion, ce dessin animé culte sorti en 1994, issu du deuxième âge d'or des studios Disney. Aujourd'hui encore, Le Roi Lion est le dessin animé en deux dimensions le plus vu au monde. Avec ses suites multiples, ses séries, des adaptations en jeux vidéo, en film live et en comédie musicale qui ont toutes connu un succès monumental, Le Roi Lion est devenu un monument multimédia de notre culture populaire. Pourquoi? Comment? On va tenter de répondre à cette question avec Laurent Bentata, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général du Théâtre Mogador à Paris, qui accueille depuis 2022, et en réalité, vous l'avez déjà accueilli entre 2007 et 2010, la comédie musicale Le Roi Lion.
Bonjour.
Avec nous également Véronique Bandelier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la metteuse en scène du théâtre Mogador.
Exactement.
Avec nous, de retour, et on est ravis, Julien Baldacchino, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à France Inter, votre chronique Net Plus Ultra est à réécouter sur l'application Radio France.
C'est ça.
Et en duplex depuis les studios de France Bleu Provence, et on les remercie, Marianne Chaillant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie et l'autrice de plusieurs ouvrages, notamment « Ils vécurent philosophes et firent beaucoup d'heureux », paru en 2017 aux éditions Équateur. Les présentations sont faites, on peut rentrer dans le vif du sujet.
Regarde, Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume. Le temps que passe un roi à gouverner ressemble à la course du soleil. Un jour viendra où le soleil éteindra sur moi sa lumière et se lèvera pour faire de toi le nouveau roi.
Et tout ça m'appartiendra ?
Absolument tout.
Tout ce qui est dans la lumière ? Et l'endroit qui est dans l'ombre aussi ?
Notre royaume s'arrête à cette frontière. Tu ne dois jamais y aller.
Moi, je croyais que les rois faisaient ce qu'ils voulaient.
Le devoir d'un monarque va au-delà de sa volonté d'agir.
Non, c'est vrai ?
Oui, mon fils. Tout ce que tu vois obéit aux lois d'un équilibre délicat. En tant que roi, il te faut comprendre cet équilibre et respecter toutes les créatures, de la fourmi qui rampe à l'antilope qui bondit.
Mais les lions mangent les antilopes ?
Oui, Simba, mais laisse-moi t'expliquer. Quand nous mourons, nos corps se transforment en herbe et l'antilope mange l'herbe. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie.
C'était un extrait du dessin animé Le Roi Lion, réalisé par Roger Allers et Rob Minkoff. Jean Reno prête sa voix à Mufasa et Dimitri Rougeul au petit Simba. Julien Baldacchino, oui. Le Roi Lion, 1994, un dessin animé qu'on a tous vu. A priori, il y en a peut-être deux en France qui l'ont pas vu. Mais quelle est la situation des studios Disney quand ce film apparaît sur nos écrans ?
Alors, ça arrive à une période où Disney est dans un double mouvement. C'est-à-dire que pour le public, depuis quelques années, on a ce qu'on a appelé ensuite la renaissance Disney, avec plusieurs films qui se sont enchaînés, qui sont La Petite Sirène, qui sont La Belle et la Bête, qui sont Aladdin, qui vont avoir un succès de plus en plus fort après des périodes vraiment de vaches maigres pour Disney.
Et on sort de la période Taram et le chaudron
voilà,
magique.
C'est ça. Donc, ça a été très compliqué. Ça redevient une entreprise qui fait des films à succès, qui a trouvé une nouvelle recette avec des films qui s'inspirent de la comédie musicale façon Broadway. Donc, il y a beaucoup de chansons. Et puis, en même temps, en interne, chez Disney, c'est aussi une période où c'est compliqué. C'est tendu entre les dirigeants de l'entreprise. C'est très marqué par une sorte de bataille interne sous couvert de tout le monde s'entend bien entre Michael Eisner, qui est le patron à ce moment-là, et son numéro 2 ou numéro 3, Jeffrey Katzenberg. Et donc, en fait, on est dans une période où à la fois les films Disney cartonnent et en coulisses, c'est difficile de produire des films et il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de films qui sont revus, corrigés, annulés, retravaillés. C'est un double contexte à la fois pour le public et en coulisses qui n'est pas exactement le même.
Donc, quand le Roi Lion arrive sur nos écrans, on est déjà habitué à ce renouveau Disney, donc à des personnages humains dessinés qui chantent. Et on a encore en tête La Belle et la Bête, évidemment le Prince Ali d'Aladin. Et tout d'un coup arrive un dessin animé en deux dimensions, dessiné à la main, avec quelques séquences où l'image de synthèse vient un petit peu aider, mais majoritairement dessiné à la main, qui met en scène des animaux et carton mondial.
Oui, et c'est une première. Ça, c'est beaucoup mis en avant par les studios Disney à l'époque. C'est la première fois qu'un film ne comporte que des animaux. Le seul autre exemple, c'est Bambi, mais c'est des décennies avant, et il y a quand même une présence humaine avec le personnage du chasseur, qu'on ne voit pas, mais qui a une importance. Et puis, c'est la première fois, alors on en reparlera, c'est pas à 100% exact, mais c'est la première fois que Disney fait une histoire originale, qui n'est pas inspirée d'un conte, d'une légende. Et donc, ce double argument crée la curiosité autant qu'il a créé en coulisses un désintérêt total, c'est-à-dire que Le Roi Lion, il faut se remémorer ça, c'est le film Disney sur lequel personne ne veut travailler. Tout le monde à ce moment-là est concentré sur un autre projet qui est Pocahontas, qui est beaucoup plus vendeur sur le papier, et donc ce sont des jeunes animateurs, des jeunes équipes ou alors des passionnés d'animaux qui veulent travailler là-dessus. Mais c'est vrai que le projet Le Roi Lion, quand il arrive au cinéma, il est atypique. Il n'y a que des animaux et on raconte une histoire que les gens ne connaissent pas déjà.
Marianne Chaillant, qu'est-ce que Le Roi Lion a apporté à nos imaginaires quand il est sorti sur nos écrans ?
À nos imaginaires, je ne sais pas, mais moi ce qui m'a plu de lire dans Le Roi Lion, c'est son contenu philosophique. Voilà, je ne l'ai pas perçu, cela dit, quand le film est sorti, j'avais 13 ans. Mais devenue professeure de philosophie, je me suis rendu compte que mes élèves connaissaient et connaissent toujours Le Roi Lion, toutes les chansons par cœur, et que en ayant vu Le Roi Lion, ils avaient déjà fait de la philosophie sans le savoir. Et c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce dessin animé, c'est qu'on est initié à la philosophie stoïcienne, notamment, et que, voilà, on le sait avec Hakuna Matata, c'est le mot philosophie apparaît dans la chanson, mais bien des scènes de ce dessin animé nous font passer des leçons de sagesse.
Alors, est-ce que vous pouvez résumer la logique stoïcienne? Parce que vous êtes en train de parler à quelqu'un qui a eu 8 au bac de philo, donc je vais pas faire semblant de savoir de quoi vous parlez.
Ben là, par exemple, vous avez fait passer un extrait magnifique, ce moment où Mufasa conduit son fils et lui fait découvrir le royaume des lions, en lui expliquant que chacun va être un maillon dans le grand cycle de la vie, et là, à ce moment, Simba s'étonne. Hein. Est-ce que ça veut dire que son chemin est tout tracé ? Il comprend pas. Pour lui, le roi doit faire ce qui lui plaît et être libre consiste à faire ce qu'on veut quand on veut. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, il y a ce moment où il part avec son ami Nala, suivi par Zazu qui
dans
a peur.
Dans le cimetière.
Ça c'est la fin, mais au moment où il part et il chante « Je veux faire ce qui me plaît ». Pour lui, être libre, c'est ne pas subir des contraintes, c'est pouvoir être cause de ses actes en fonction de sa volonté. Et il me semble que tout le dessin animé nous montre l'apprentissage de ce qu'est véritablement la liberté, c'est-à-dire non pas de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut, qui est une conception un peu sartrienne qu'on retrouvera plus tard dans Zootopie, parce que vraiment j'ai l'impression que c'est le postulat de mon livre, hein, mais que Disney vraiment nous permet de réfléchir philosophiquement dans Zootopie. Voilà, il y a cette idée de la liberté où on est l'auteur de sa propre histoire, on ne subit pas un héritage, un passé qui dessine pour nous un avenir. Sauf que c'est pas l'histoire du roi lion, c'est pas l'histoire de Simba. Cette super belle chanson, c'est l'histoire de la vie, nous invite aussi, comme le dessin animé, à aller vers une conception très différente de la liberté, non pas cette capacité de faire ce qu'on veut quand on veut, mais à apprendre, et c'est la leçon des stoïciens, que nous ne sommes pas les auteurs de notre vie, mais les acteurs d'un rôle que le destin nous a confié. Et c'est une vision tout à fait paradoxale de la liberté, c'est pas la plus commune à l'heure actuelle, mais être libre, ce n'est donc pas faire ce que je veux quand je veux, mais c'est consentir au sort qui m'a été dévolu. Et donc c'est apprendre à accepter mon destin. On voit que Simba va fuir, pour les raisons qu'on connaît et sur lesquelles on reviendra, et puis Nala vient le chercher et lui dit « tu sais ce qui se passe ». Et vous vous rappelez sans doute cette scène où Simba se retrouve hésitant et se demande « qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne au royaume des lions ou est-ce que je reste dans l'oasis ?» Et puis il prend la décision de repartir. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cette course dans la nuit de Simba qui court vers son royaume et vers son destin. Et à ce moment-là, on n'a pas l'impression que Simba est contraint. On a l'impression qu'il est libre, qu'il y va librement. Et pourtant, il ne fait qu'accomplir le rôle qui lui était confié depuis toujours, à savoir assumer sa place dans l'histoire de la vie.
Ça rejoint l'adage les contraintes sont génératrices de liberté.
Alors, c'est pas simplement qu'elles sont génératrices, c'est qu'elles sont constitutives de l'existence et que prétendre leur échapper et que ce serait en cela que résiderait notre liberté est une illusion. La liberté ne consiste pas à échapper aux contraintes, mais à les accepter, à les assumer et à accepter le sort en fait qui nous est confié. Et le dessin animé se termine par la naissance du fils de Simba. lui-même présenté
Alors, ma fille, qui a suivi la garde du roi lion, m'a bien stipulé, c'est une fille qui naît à la fin. Ça n'est pas
c'est
un fils,
fille.
C'est
excellent,
une fille.
Excellent, magnifique. Magnifique, je ne savais pas, je n'ai pas vu le...
Ah bah oui, oui, mais moi j'ai ceinture noire de roi lion à la maison, donc c'est
okay,
une fille.
Ok, bah c'est très bien. Mais voyez, elle aussi donc est présentée, et est pour elle aussi... l'histoire, elle prendra sa part dans l'histoire de la vie. C'est une tout à fait une autre vision et voilà qui m'a beaucoup frappée et que j'utilise encore en cours quand je dois expliquer les stoïciens et la philosophie de la liberté. Ouais. Le meilleur moyen, c'est de passer par le roi lion.
Écoutez, avec votre explication, je pense que je peux au moins briguer un 9 désormais.
La moyenne, tout de même, Frédéric.
Oui, oui, mais bon. Oh là là, ne brûlons pas les étapes. Véronique Bandelier, avant même de mettre en scène le Roi Lion au Théâtre Mogador, comment s'est passée votre rencontre avec le dessin animé?
Alors, il s'est passé de manière extraordinaire, j'irais, parce qu'en fait, donc, avant d'être metteur en scène, j'étais sur scène. Et quand le Roi Lion est sorti en France, et il est sorti au Grand Rex, et du coup, il y avait un spectacle qui était proposé avant chaque séance de film, avec donc chanter, danser, avec des extraits de différentes comédies musicales et films de Disney. Donc, c'était mis en scène. Donc, ça a duré un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, j'étais là à toutes les séances. Et je me souviens très bien que ce qui m'a vraiment marqué, c'était l'attention du public. C'était ce côté aussi bien grandiose, gigantesque, et en même temps, ce côté très émouvant, très touchant, très personnel. Et dans la salle, bien sûr, il y avait beaucoup d'enfants, mais je sentais aussi que les adultes étaient très absorbés par cette histoire. Et je sais que ça m'a beaucoup marqué au moment où c'est sorti, et puis je ne savais pas que plus tard, je travaillerai sur ce spectacle. C'est le cercle de la vie, ça.
Laurent Bentata, comment vous avez découvert le Roi Lion?
Je pense comme tout le monde, c'était un choc, pour reprendre les termes. Ça a été une vraie surprise, je pense, pour tout le monde. On ne s'attendait pas à ça. C'est vrai qu'on était un peu habitué avec Disney, Blanche-Neige et autres, qui étaient reprises, remasterisées et tout. Et on n'avait pas été encore surpris comme on l'a été. Je pense qu'il y a une véritable étape avec le Roi Lion. Et ne serait-ce que par les images, ne serait-ce que par les couleurs, ne serait-ce que par l'histoire. Et encore une fois, c'est le film, et c'est le spectacle, et on a exactement les mêmes qualités du spectacle, où les parents peuvent aller avec leurs enfants en se sentant fiers de présenter ce spectacle ou ce film à leurs enfants, parce que tout le monde y trouve son compte. Et c'est pour ça que j'étais aussi assez interpellé par l'analyse philosophique du Roi Lion. C'est-à-dire qu'il y a toujours une double lecture dans le Roi Lion, et c'est pour ça que c'est aussi bien un spectacle pour les enfants que pour les adultes.
Mais parce que c'est vrai qu'il y a des racines shakespeariennes aussi dans le Roi Lion. C'est-à-dire qu'au-delà même du dessin animé, du conte philosophique que ça peut être, on touche aussi aux grands textes qui ont façonné notre culture. C'est-à-dire le frère qui en veut de ne pas être dans la lumière. Voilà la succession. Et c'est pas un hasard si dans le film on voit notamment ce moment où Scar joue avec un crâne, et on est dans Hamlet également. Julien Balekino,
ça devait même être encore plus présent. Il devait y avoir la scène du être ou ne pas être dans les premières versions du film. Ils s'en sont pas rendus compte tout de suite. C'était pas une volonté de faire une adaptation de Hamlet, mais au fur et à mesure de la production, on leur a dit ça ressemble quand même beaucoup à Shakespeare ce que vous faites, et donc ils sont partis dans cette direction. Le être ou ne pas être devait être une scène, et finalement ça a été transformé en une autre scène qui est l'une des plus marquantes du film, qui est celle dans laquelle, attention, je révèle un élément, Simba voit le visage de son père dans le ciel qui lui parle. Et c'est la scène To Be or Not To Be du Roi Lion, voilà, mais qui à la base aurait dû être vraiment une inspiration directe de Hamlet.
Je me souviens avoir vu le film en salle au moment de sa sortie, parce que j'allais voir tous les Disney le jour de la sortie, et j'étais adolescent, et donc j'étais le plus grand de la salle, et je me souviens d'être entouré d'enfants plus petits que moi, qui tout d'un coup, au fameux moment de la mort de Mufasa, j'ai vécu quelque chose que je n'ai jamais revécu dans une salle de cinéma. C'est un malaise, mais partagé par les parents, et des voix d'enfants pendant le film, maman, pourquoi il bouge plus? Pourquoi il bouge plus? Et tout d'un coup, je me suis dit, là, t'es en train de... Alors déjà, moi, j'étais un petit peu en larmes, mais je me suis dit, c'est quand même dingue d'être là au moment où, pour des centaines d'enfants, c'est leur première rencontre véritable avec ce qu'est la mort.
C'est une première d'ailleurs. Je pense que, alors, dans Bambi, on le voyait, mais c'était suggéré parce qu'on ne voyait pas la mère. Mais là, on le voit. On voit le corps. On voit le corps inerte. Et quand je parlais de choc tout à l'heure, c'est à tout point de vue, enfin à plusieurs niveaux. C'était une première. Les Disney avaient été très loin à ce niveau-là. Je pense qu'ils ont dû se poser des questions puisque c'est la première fois qu'on montre la mort dans un dessin animé. Je pense que, au niveau des analyses psychologiques et autres, je pense que c'était une avant-première.
Marianne Chaillant, est-ce que justement vos étudiants, ils vous parlent de ce passage, de la mort de Mufasa?
Non, vraiment. Enfin, après, ce qu'ils retiennent essentiellement, c'est la chanson de Timon et Pumba. c'est vraiment...
ils ont choisi leur corps.
Oui. La vie plutôt que la mort. Cela dit, je vous entendais parler des réactions dans le public et moi, je me rappelle pas de ma première vision du Roi Lion au cinéma. J'avais 13 ans, probablement, mais par contre, je me rappelle de Bambi que vous venez d'évoquer et j'ai dû sortir, on m'a raconté, hein. J'ai dû sortir, alors la mort n'était pas montrée, dites-vous, je m'en rappelle pas parce que j'ai jamais voulu le revoir depuis, puisque j'ai tellement été traumatisée.
Non, on entend un coup de feu, on voit des oiseaux s'envoler, ouais. La caméra panote légèrement, mais on ne voit jamais la maman de Bambi.
Bambi mourir, hein. Vous voyez, pourtant ça m'avait beaucoup traumatisée.
Moi je sais que dans Bambi, j'ai plus été choquée par l'austérité du père de Bambi quand il revient, ce qui n'a pas l'air sympa du tout. Et je me suis dit, tu n'as pas gagné, toi. Mais donc vous, c'est plutôt Bambi, votre trauma matriciel, Marianne Chaillant.
Ah oui. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon bouquin sur les dessins de mes Disney, j'ai refusé de le revoir, quoi. Donc il n'y est pas dans le livre, parce que je n'ai pas affronté mon trauma.
Voilà. Écoutez, on va le laisser en l'état.
D'accord, au pouvoir de réflexion, vole plus bas qu'un derrière de cochon. Mais bêtes comme vous êtes, faites attention. Rebelles et lions font rébellion. Je vois à vos yeux sans expression qu'il faut que j'éclaire vos lanternes. Nous parlons de roi, de succession. Vous êtes tout impliqués dans l'affaire. Soyez prêtes pour la chance de votre vie, car enfin va venir le grand jour. Nos ennuis sont finis, nous sortons de la nuit.
Et qu'est-ce qu'on doit faire?
M'écoutez et vous taire.
Faites-moi confiance, votre récompense, vous l'aurez quand viendra ce beau jour, quand la gloire couronnera ma terre. Soyez prêtes. Pour la mort du roi.
Il est malade?
Non, imbécile, nous allons le tuer. Et Simba aussi.
Bonne idée, on vivra sans roi.
Sans roi, la 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 la.
Idiote, il y aura un roi.
Oui, mais t'avais dit que...
Je serai le roi. Suivez-moi. Et vous n'aurez plus jamais faim.
Ouais.
Youpi, l'envie au roi.
Bien sûr, en revanche, j'ose espérer que vous exécuterez mes ordres. J'assure un futur plein de captures, puisque je suis roi des chasseurs. Par contre, sans moi, je vous l'assure, vous mourrez de faim pour la vie. Soyez prêts pour le coup le plus génial. Soyez prêts pour le plus beau scandale. Je dis compromission, je dis conspiration, je crie humiliation. Trois mots qui me feront un roi incontesté, respecté, salué, le seul Dieu vivant vous l'acclame. Votre roi vous invite à la fête.
Soyez roi.
venez d'entendre Soyez prête, évidemment un titre culte composé par Elton John et écrit par Tim Rice, et c'est Jean Pia, le Jean Pia des Rois Maudits, qui l'interprète en français. Alors justement, là on vient d'entendre une chanson culte, moi je ne cache pas que pendant très longtemps, ça a été ma chanson préférée du Roi Lion, ça doit être mon côté lorrain, voilà, j'aime bien le côté martial. Et j'ai cette question pour vous, autour de la table et au téléphone, quelle est votre chanson préférée du Roi Lion ? Julien Baldacchino.
C'est terriblement difficile faut choisir ses de enfants. Choisir. Mais non, mais je pense que Soyez prête, c'est pour moi vraiment une chanson à laquelle je suis extrêmement attaché. C'est pour moi la meilleure chanson de méchant Disney de toute l'histoire des films Disney. Et puis elle est extrêmement forte, extrêmement puissante. C'est difficile de pas mentionner l'histoire de la vie.
Oui.
Mais Soyez prête à ce petit quelque chose de comédie, justement de comédie musicale en plus.
Oui. Laurent.
Ah, moi, je vais rester proche du spectacle, parce que c'est Il vit en toi, pour moi. Et il y a quelque chose...
Incroyable morceau. Parce qu'on va y venir, la comédie musicale Le Roi Lion ne se contente pas de reprendre les chansons du dessin animé, elle les complète, les enrichit.
Ah oui, plus, parce qu'il y avait, il y a 1h30 de dessin animé, et il y a 2h20 de spectacle. Donc, il y a énormément de chansons. Il y en a 17 dans le spectacle, et je crois qu'il y en a 8 dans le dessin animé. Donc, il y a eu un incrémental important, et Il vit en toi en fait partie, et ce souvenir de garder l'éternité, c'est assez fort. À la fois musicalement et au niveau du message, je pense que c'est celle qui m'a le plus marqué.
Véronique ?
Ouh ! Alors là, il y en a tellement, toutes, parce que en travaillant dans le spectacle, on est vraiment dans le cœur du sujet, dans l'ADN de la création musicale. Je sais que une chanson que j'aime beaucoup, c'est Shadowland, c'est Terre d'ombre, c'est la chanson chantée par Nala dans le spectacle, où en fait elle est guidée, elle est amenée à décider de partir, en même temps en étant consciente, pas complètement, mais en se disant voilà, faut faire quelque chose, et c'est justement ce dont on parlait au début de l'émission, c'est quoi sa place et qu'est-ce qui nous guide, et elle y va, et c'est ce côté guerrière en même temps, avec cette foi en la vie, en ce qu'elle va trouver, ne sachant pas ce qu'elle va trouver, et puis ce rapport à sa famille, à sa terre, parce qu'elle sait qu'elle reviendra, elle ne sait pas quand, comment, mais elle reviendra avec une solution, ne sachant pas laquelle, et bon, c'est un peu la vie en fait.
Et là je sais que les auditeurs et auditrices sont en train de dire ils ont cité deux chansons que je connais pas, parce que je n'ai pas encore vu la comédie musicale.
C'est exprès.
C'est très malin de votre part. C'est très très malin. C'est très malin. Et effectivement, mais je connais ces morceaux. Ils gagnent vraiment à être entendus, parce qu'ils complètent formidablement le dessin animé. Marianne Chaillant, quelle est votre chanson préférée ? Et vous allez me dire Hakuna Matata, j'ai l'impression.
En fait, je réfléchissais en écoutant les uns et les autres. On les connaît tous par cœur. Ces chansons, on les connaît, on les adore. Et je me rappelle j'ai vu la comédie musicale à Londres à l'époque où elle n'était pas à Paris. J'ai hâte d'aller la voir au Mogador. Et je me rappelle que j'ai été mais vraiment propulsée en arrière de mon fauteuil quand la comédie musicale a démarré. Alors que je ne suis pas fan de comédie musicale, pas du tout. Et donc je le dis aux auditeurs.
Il y a Julien Baldacchino qui est en train de s'ouvrir les veines là, juste à côté de moi. Il faut
même
faire attention
si vous
n'aimez
pas
ça.
Les comédies musicales, il faut y aller. Il faut y aller. Ça a été le début ça a été une émotion bouleversante. Et j'ai découvert la chanson donc Il vit en toi, qui est effectivement hyper émouvante, j'aurais répondu ça si ça avait pas déjà été choisi, et donc je suis obligée de prendre Hakuna Matata, puisque personne n'a cité Hakuna Matata, il faut bien que je le dise, et parce qu'elle a un contenu philosophique là encore, et c'est ça du coup je vais dire Hakuna Matata du coup.
Très bien.
Ces mots signifient philosophie quand même, hein, voilà.
Mais oui.
Sans aucun souci,
oui,
philosophie.
Oui. Là, il y a un corporatisme qui
s'applique. Bah oui,
qui s'applique.
Voilà. Ouais.
Julien Baldacchino, musicalement, ça a été aussi une révolution, Le Roi Lion, et il y a ce nom, Tim Rice et Elton John.
Oui, c'est... C'est inhabituel parce que les précédents succès au cinéma des studios Disney c'était basé sur un duo de Howard Ashman qui était le parolier et d'un compositeur dont
Monsieur Menken.
Alan Menken. Merci. Qui ont fait La Belle et la Bête, qui ont fait La Petite Sirène, qui ont fait Aladdin. Howard Ashman meurt pendant la production d'Aladdin, donc c'est Tim Rice qui le remplace, effectivement, qui reprend donc ce rôle de parolier sur Le Roi Lion. Et il y a Elton John qui arrive. Il y a une autre personne qui arrive aussi, qui est Hans Zimmer, qui fait les musiques instrumentales du film.
Et alors, c'est pas le Hans Zimmer de Interstellar. Hein,
non, là, c'est de la musique extrêmement lyrique. C'est des choses très fortes. Il faut savoir que Hans Zimmer a vécu la perte de son père, qui l'a beaucoup marqué. Donc les scènes où il y a un lien entre Simba et Mufasa, vivant ou mort, ont vraiment une force lyrique qui est vraiment, vraiment très puissante. Elton John apporte un vrai côté pop dans les chansons, qui existent d'ailleurs pour la plupart en deux versions. La version du dessin animé et puis la version pop enregistrée par lui. Et puis il y a une dernière personne qui est très importante de mentionner, qui s'appelle Lebo M, qui est un chanteur sud-américain et qui lui va créer toutes les parties chorales, toutes les parties de voix qui sont dans ce film. Donc en fait, on est dans une union entre plusieurs talents, des paroliers de comédie musicale, des musiciens pop, des compositeurs de musique de film et des spécialistes du chant sud-africain. Et cette union-là va créer le cocktail magique des chansons et des musiques du Roi Lion.
Mais d'ailleurs, l'ouverture du Roi Lion avec l'histoire de la vie, toute cette procession d'animaux qui vont magnifier par cette chanson, je me souviens que même la bande-annonce de l'époque ne dévoilait rien de l'intrigue du Roi Lion. Il y avait juste ce passage où on voyait les animaux qui se rendaient à la naissance, au baptême de Simba, et c'était les seules informations qu'on avait sur le film. Et c'est vrai que pour démarrer un dessin animé ou un spectacle avec l'histoire de la vie et terminer par le Roi Lion, on avait vraiment l'impression de rentrer presque dans une sorte d'épopée qui avait des ambitions bien plus larges que, par exemple, Belle qui est dans son petit village et qui lit des livres. Là, on était sur un truc monumental.
C'est un numéro d'exposition qui nous dit tout sans ne nous dire rien. On voit les relations entre les personnages, on voit la puissance de qui est le roi, parce que tous les animaux de la savane viennent s'incliner devant lui. Et puis, c'est porté par cette musique, c'est porté par cette ouverture avec le soleil qui se lève et cette voix. La légende dit qu'il n'y a eu qu'une seule prise de cette voix, que c'est la première prise faite qui a été gardée. Et on retrouve cette ouverture. Et dans le spectacle, c'est tout aussi puissant parce qu'on a aussi ce chant, ce soleil qui se lève et ces animaux qui arrivent pour s'achever en apothéose. Et là, si on rentre dans les plans du film, on a effectivement la caméra qui recule du rocher des lions pour voir tous les animaux et qui est coupée par ce grand coup de percussion. C'est d'une puissance assez rarement égalée dans le cinéma d'animation et peut-être même dans le cinéma de manière générale.
Et alors, on est en 1994, on n'est pas encore dans les considérations philosophiques, de représentation identitaire dans lequel on peut être aujourd'hui, mais c'est un studio américain qui s'empare du continent africain, qui raconte l'histoire d'animaux africains. Est-ce que, au moment de la conception musicale, les artistes africains ont été consultés, ont participé à l'élaboration de la bande-son? Parce que j'ai le sentiment que, justement, ce qui a un petit peu changé avec la version spectacle, c'est qu'il y a une réappropriation aussi par ces musiciens africains.
Alors la partie chorale et sud-africaine, c'est effectivement les bohèmes, comme je le disais, qui composent ces parties-là. C'est du swahili, donc c'est la langue sud-africaine. Le texte du début avait au départ, dans une première version, une connotation plus politique. Là, ça veut juste dire, je vais peut-être casser un mythe, mais ça veut juste dire c'est un lion est né. Voilà, ça dit en fait ce que va nous dire la chanson, puisque donc c'est les studios Disney, il faut que ce soit pas politique, qu'il n'y ait pas de grandes considérations. Mais il y a quand même ce côté-là qui intervient. Pour le reste, effectivement, la raison pour laquelle Le Roi Lion se déroule en Afrique, c'est que Katzenberg, un des patrons de Disney, était allé en Afrique, était fasciné par ce continent, s'est dit c'est le meilleur endroit pour un récit d'initiation. Voilà, effectivement, la seule partie africaine du film, c'est que les animateurs sont allés en Afrique voir les paysages, ont fait venir des lions dans les studios pour étudier leur mouvement, mais ça s'arrête là. Si on met de côté la musique, ça s'arrête là.
Véronique, justement, avec l'adaptation en comédie musicale que j'ai eu la chance de voir, on sent qu'il y a une affirmation beaucoup plus profonde sur les origines africaines que peut-être Le Roi Lion.
Alors déjà au niveau des chanteurs, en fait, il y a une charte dans la comédie musicale, c'est-à-dire qu'il faut avoir minimum 7 ou 8 Sud-Africains pour avoir justement cette sonorité, ces harmoniques que...
Donc ça, c'est écrit dans la charte.
Oui. Quand on monte Le Roi Lion dans n'importe quel pays du monde, on est obligé d'avoir minimum 7 Sud-Africains. Et quand on est à côté d'eux qui chantent ou qu'on vient voir le spectacle, on sait pourquoi. C'est culturel, c'est en eux, ils ont une vibration, quelque chose qui porte avec eux et qu'on a la joie de pouvoir partager sur scène. Et donc, bah oui, ça envahit vraiment cet espace harmonique, musical, et donc toutes ces sonorités aussi liées à toute l'orchestration, à tout l'orchestre qui est là avec pas moins de 100 instruments de musique. Il y a à peu près 90 percussions différentes, et ça on le sait pas parce que c'est très subtil. Mais donc voilà, il y a tout ce mélange avec effectivement tous ces rythmes et ces percussions qui sont aussi dans le langage, quand Rafiki parle et qu'on appelle ça la click story, ce personnage étonnant qui vient et puis qui nous raconte, et en même temps elle est conteuse, elle raconte l'histoire et en même temps elle est dans l'histoire parce qu'elle fait avancer l'histoire, et c'est donc tout le côté spirituel.
Et très très drôle.
Voilà, donc c'est un personnage féminin qu'a voulu Julie Taymor à la différence du dessin animé, parce qu'en fait les chamanes en Afrique du Sud sont des femmes, elles s'appellent les Sangoma, elles sont très répandues et elles ont un pouvoir très important, un pouvoir médicinal, elles soignent avec les plantes et puis avec plein d'autres choses très particulières, et donc c'est Rafiki qui est là tout au long de l'histoire, donc elle aussi c'est une Sud-Africaine dans la comédie musicale. Et la chanteuse principale et les deux personnes, les deux artistes chanteuses qui doivent la remplacer doivent être sud-africaines pour pouvoir justement donner toute cette dimension qui vient de chez elle.
Laurent Bentata, la comédie musicale Le Roi Lion, elle est diffusée dans combien de pays ?
Alors, dans beaucoup, d'une manière permanente aujourd'hui, elle se joue à Londres, elle se joue aux États-Unis, elle se joue en Espagne, elle se joue en Allemagne, elle se joue en France. Il y a 5 pays où le spectacle reste. Alors, ce qu'on appelle, ce que les anglo-saxons appellent un evergreen, c'est-à-dire que ça reste longtemps, il n'y a pas de fin. Nous, on le produit en Allemagne depuis 23 ans, à Hambourg, on le produit en Madrid depuis 13 ans, et il se joue à Broadway donc depuis 1997, et sans interruption, et ça reste le record. Je crois qu'ils viennent de passer dans le classement des 5 spectacles avec la plus grande longévité. Parce que faites le calcul, ça fait plus de 20 ans, ils vont fêter les 25 ans.
Et donc c'est des millions de spectateurs.
C'est des centaines de millions de spectateurs. Et ce spectacle, ce qui est intéressant, il ne se démode pas. C'est-à-dire qu'il reste intemporel, il reste universel. Et c'est sa force, justement. Et c'est ce que effectivement, je pense que ce n'est pas une comédie musicale. Ce n'est pas un spectacle. C'est une expérience. Et je pense que on garde tous en mémoire la première fois, en tout cas moi, qu'il est vu. Et on parlait du numéro d'ouverture. À chaque fois que je vois malheureusement des gens qui arrivent en retard et qui ratent ce premier numéro, mais je presque envie de leur dire mais rentrez chez vous.
Parce que je décris un petit peu pour les auditeurs qui ne l'auraient pas encore vu. Il y a une sorte, comme dans le film, une procession, sauf que là, ce sont des acteurs qui chantent, danse, manipule des sortes de marionnettes qui rappellent presque plus la compagnie la fabrique de Nantes avec l'éléphant géant etc. Et c'est une performance vocale visuelle, de manipulation, de chant. Il y a une réinstrumentalisation du titre C'est l'histoire de la vie. Donc vraiment, on est dans le bain directement. On va en prendre plein les yeux.
C'est une vision 360. C'est-à-dire que, et on a tout. Enfin, il y en a, c'est un plaisir pour les cinq sens, quoi. On en a là pour les yeux, on en a là pour presque le toucher, parce qu'on, comme il rentre par, enfin, je veux pas tout révéler, mais les spectateurs font partie de cette procession. Donc, c'est ça qui est intéressant.
Et la force, justement, de cette immersion, parce que c'est quand même, on parle beaucoup d'immersion, c'est vraiment un spectacle immersif. Et donc cette force, en fait, justement, pour passer du dessin animé au théâtre, à l'aspect plus théâtral, Julie Taymor s'est posé la question de savoir comment elle allait pouvoir justement rendre cette humanité qui est dans le dessin animé, parce qu'ils sont très humains, en fait. En surface, on voit des animaux, mais en fait, c'est l'humanité. Et donc, comment pouvoir avoir ces animaux et en même temps voir cette humanité, elle appelle ça le double événement, c'est-à-dire qu'on voit et l'animal et le comédien. Il n'y a rien qui est caché, c'est vraiment pur, c'est direct, et donc dans cette procession au début, on voit effectivement ces différentes manipulations de marionnettes avec le cheetah, le guépard, les zèbres qui manipulent ces marionnettes, et on voit l'humain qui est dans l'animal. Donc elle appelle ça... humanimaux, en fait, c'est ça. C'est vraiment cette humanité, cette animalité mélangée.
Oui, donc il y a une nécessité pour le comédien, manipulateur, chanteur, slash danseur, de jouer avec tout son être en permanence. C'est-à-dire à la fois jouer son visage, jouer l'intention, mais en même temps jouer l'intention de la marionnette. Tout ça à vue du public, il y a presque un numéro de personnalités multiples pour chaque individu.
C'est très complexe dans l'apprentissage et dans les répétitions, parce qu'en gros, on fait des castings, des auditions, ils arrivent, on voit le comédien, ok, super, t'as un peu le rôle. Maintenant, on repart de
zéro. Ça, t'as un peu le rôle.
Ouais, maintenant, on repart de zéro, on emmène la marionnette. Et là, au tout début, et Véronique peut en témoigner mieux que moi, mais il y a des gens qui sont complètement déstabilisés, parce que ça annihile presque tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils ont en eux, et ils doivent jouer à deux, mais pour ne faire qu'un.
Oui, et puis alors il y a tous les styles, hein. C'est-à-dire qu'elle s'est inspirée beaucoup des marionnettes, de tout le théâtre indonésien, de Bali, de Java, puisque Julie Taymor a vécu 4 ans là-bas, et puis aussi une grosse influence japonaise sur la manipulation de la marionnette. Après, si on prend le personnage de Zazu, c'est-à-dire vraiment la marionnette qui manipule avec ses deux mains, et puis le costume qui est un queue-de-pie, puisque c'est un majordome, donc il y a vraiment pour chaque artiste et chaque caractère.
Miscard qui se promène avec une canne,
avec
un petit peu dandy.
Avec le masque. Et le masque qui ne cache pas le visage du comédien. Donc on voit vraiment toutes les expressions avec le masque qui est au-dessus de la tête et qui, par magie, tout d'un coup, peut venir devant le visage s'il est plus animal et revient au-dessus de la tête s'il est plus humain. Donc il y a tout le temps ce double événement de l'animal et de l'humain. Et donc c'est magique pour un comédien quand il a réussi à appréhender et à être à l'aise avec sa marionnette, parce qu'il peut encore plus développer son jeu grâce à ses marionnettes.
Et c'était la crainte quand on passait du film au dessin animé, c'était comment réaliser cette prouesse. Alors il y avait des gens, les mauvaises langues, qui disaient oui, mais on va encore trouver des marionnettes, enfin, ils vont se mettre dans des personnages qu'on peut voir. Et non, et c'est sa force de Julie Taymor. Et elle dit une chose qui est quand même très intéressante, c'est-à-dire que le spectateur voit au-delà de l'acteur et se construisent eux-mêmes l'univers de la savane. Donc elle l'accepte, elle affirme justement cette dualité entre les deux, et c'est la force de son apport. D'ailleurs, quand elle a convaincu, elle a été chercher, parce que c'est Mike Eisner qui fait la commande du spectacle, à Tom Schumacher, qui est encore toujours le patron de la branche théâtre de Disney, et lui pense à elle. Pense à elle parce qu'elle a été créatrice d'opéra, mais elle n'a aucune connexion avec le spectacle musical. Et elle vient et elle arrive à les convaincre avec un concept qui est la roue des gazelles. Où simplement on voit un personnage, un comédien, une danseuse qui pousse comme un tricycle, on va dire, avec des roues. Et sur les roues, on voit des gazelles et ça fait danser les gazelles. C'est le concept. Elle arrive.
Ah, on est presque dans le théâtre d'ombre.
Exactement. Et d'ailleurs, on est dans le théâtre d'ombre. Et les influences dont parlait Véronique, elles sont multiples, puisqu'on n'a pas de l'Indonésie. Bien sûr, l'Afrique. Mais il y a la France. Un peu de on va être un peu cocard là-dessus. Elle a étudié à l'école de Coq. Des mimes. Donc, il y a aussi une influence. Et elle le revendique. D'accord, quand elle vient à Paris, elle est venue pour le montage du spectacle. Paris a quelque chose de particulier pour elle. Par rapport à son influence et par rapport à son apprentissage à l'école de Coq.
Tu vois alors, qu'est-ce que tu veux faire?
Eh bien d'abord, je vais prendre ce bâton.
Non, pas mon bâton. Hey, Bo, où tu vas?
Je rentre chez moi.
Tant mieux, fiche-moi encore.
C'était un extrait de la comédie musicale Le Roi Lion, composé de son casting actuel, Findil Lodvou dans le rôle de Rafiki, Ryan Malcolm dans le rôle de Simba, Noah Ndema dans le rôle de Mufasa et Olivier Brightman dans le rôle de Scar. Si jamais j'ai mal prononcé les noms ou prénoms, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Parfait.
Les auditeurs ont l'habitude, hein. C'est du gravier à ma bouche. Hein, donc,
Tout va bien.
Marianne Chaillant, vous avez vu, on vous a passé votre morceau préféré du coup.
Mais oui, merci beaucoup.
Je vous ai entendu hocher la tête au téléphone, ce qui est extrêmement compliqué, mais je vous ai quand même entendu au moment où on parlait justement de cette scène de procession du Roi Lion que vous avez vue à Londres.
Ouais. Oui, parce que vraiment, encore une fois, je le disais, je ne suis pas amatrice au départ, mais je pense, et donc je m'adresse aux auditeurs qui penseraient que ce spectacle n'est pas pour eux à ce titre. C'est vraiment une expérience. Le mot a été prononcé et je pense qu'il faut la vivre une fois dans sa vie. Ce début, cette ouverture-là, elle est bouleversante. Et en vous écoutant parler les uns et les autres, je comprends mieux pourquoi j'ai été si émue. C'est vraiment... c'est extraordinaire et ça s'arrête pas, en fait, tout le long. On est bouleversé. Voilà, c'est une expérience folle. Alors j'ai hâte de la voir en français.
Et en plus, c'est d'habitude, il y a toujours une dimension un petit peu quand on est un peu cynique et français, parce que quand on est cocard, on est aussi un petit peu cynique comme ça. C'est-à-dire, oh, c'est un produit dérivé du dessin animé, etc. Ouais. Or, en fait, très rapidement, on est convaincu du contraire. C'est un spectacle à part entière, et je dirais même que le fait qu'il y ait eu le dessin animé nous amène dans un palier d'appréciation du spectacle tout autre, parce que
tout à fait.
Chose très rare, c'est qu'il y a énormément de chansons et de musique que l'on connaît déjà, que l'on connaît depuis que l'on est enfant. Ce qui fait qu'on est sur une sorte de base commune, et tout d'un coup, toute la troupe, la mise en scène, nous emmène encore un peu plus loin. Et c'est aussi ça qui fait la force du Roi Lion, ou de quelques autres très grandes comédies musicales dont je pouvais vous parler hors antenne, comme Mamma Mia, parce que Abba a déjà fait le travail, ou Starmania, parce que les chansons, on les a dans la tête. Mania, oui, mais grosso modo, c'est les trois comédies musicales sur lesquelles on peut aller en se disant « Ok, je viens déjà avec des devoirs faits à la maison. »
Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Vraiment. Mais vraiment, j'invite tous ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas vécu cette expérience immersive où effectivement nos cinq sens sont sollicités à courir au Théâtre du Mogador pour vivre ça.
Julien Baldacchino. Alors vous, je sais que là, on parle de comédie musicale, donc on est chez vous.
Je suis tout à fait client déjà de base. Mais le fait qu'on connaisse les chansons, c'est ce qui permet d'avoir une porte d'entrée vers un spectacle qui, mine de rien, est assez exigeant, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle, c'est pas des solutions de facilité. La solution de facilité, ça aurait été de prendre des gens, de leur mettre des gros costumes peluches à l'image des personnages.
Oui, la parade du château voilà, de Disney.
Et de faire une parade façon parc Disney. Là, on est dans une vraie réflexion, comme vous le disiez, sur les masques, sur les personnages, sur les ombres. Julie Taymor, c'est effectivement une metteuse en scène d'opéra, donc elle a l'habitude de monter plutôt des spectacles pointus pour un public exigeant. Et ben, elle n'a pas renoncé à cette exigence avec Le Roi Lion, et il y a des moments qui sont des réflexions sur le théâtre avec ses marionnettes. Il y a un moment qui est très drôle, plutôt vers le début du spectacle, dont je ne dévoile pas grand-chose, où pendant quelques secondes, minutes, Zazou est séparé de sa marionnette. On se dit, mais du coup, qui est Zazou? Et en fait, quand on est dans le public, on a aussi presque involontairement cette réflexion en permanence entre... Si on fait pas attention, on voit des animaux, et puis dès qu'on regarde, on voit aussi des humains, et c'est ça qui fait la force de ce spectacle. Pour moi, une des valeurs qui font que le spectacle dure depuis aussi longtemps qu'il ne s'est pas démodé, c'est ce choix visuel qui est un choix qui n'est pas tombé dans la facilité.
Et alors, est-ce qu'il y a des singularités suivant le pays qui adapte Le Roi Lion? Parce que je sais qu'en général, Disney verrouille véritablement tout le travail d'adaptation. Est-ce que vous avez eu des espaces de personnalisation ou pas du tout?
Ben dans le livret, oui. Dans le livret, oui, et justement, et même entre l'adaptation qui a été faite en 2007, au moment où on l'a lancée la première fois, et celle de 2021. Et il y a eu des changements parce qu'on essaye de faire des petits clins d'œil à la société actuelle dans le livret qui permet aux gens de se transposer un peu ou d'être connectés, c'est un mot à la mode aussi, au spectacle. Et donc on a ces libertés, que ce soit dans les chansons, dans la chanson, on parlait de la scène tout à l'heure entre Scar et Zazou, là aussi on a cet espace de liberté. Donc c'est bien puisque ça en fait quand même un spectacle aussi français, avec sa troupe, et chaque artiste apporte, même s'il y a un cahier des charges, mais chaque artiste, je pense que tout le monde peut parler, citer Oliver Bretman, vous le citiez tout à l'heure, le Scar, Scar en 2000, oui. En 2007, et j'en parlais avec lui hier, mais je lui dis, mais ça va, t'es toujours, il me dit, mais c'est toujours autant de plaisir, on est dans du spectacle vivant, tous les soirs, c'est différent.
Et surtout qu'en plus, Scar est le personnage le plus délicat, parce que c'est un des méchants ultimes de l'univers de la cosmogonie Disney, mais on en a parlé, parce qu'il y a eu un film également en image de synthèse où le Scar est largement moins réussi, parce que c'est très délicat de jouer Scar, il est mielleux et en même temps c'est un manipulateur de génie, et en même temps physiquement il est beaucoup moins impressionnant que son frère Mufasa, et donc il faut jouer sur toutes
il a plusieurs facettes quand on le voit en dictateur avec les hyènes. Mais il a ce talent, et c'est pour ça que c'est un vrai comédien de théâtre qui doit habiter ce personnage. Véronique, je pense que tu peux confirmer, mais c'est incroyable, quoi. Il est incroyable. Olivier est un vrai comédien de théâtre, et il apporte toute cette dimension théâtrale et son talent.
Mais effectivement, et du coup, c'est aussi dans le travail de Julie quand elle a monté pour le spectacle, pour le théâtre, c'est-à-dire qu'elle est allée chercher beaucoup de dimensions différentes pour nourrir les personnages. On parle de Scar, mais on peut parler aussi de Mufasa, on peut parler de Simba quand il est adolescent, puisqu'il y a des scènes qui sont rajoutées, comme la scène de la cascade où en fait, ne sachant pas Simba, adolescent, ce qui lui arrive, eh bien, il est poussé et il pousse Timon.
Il a les hormones qui le travaillent.
Oui, et puis parce qu'il est pas, il vit pas au bon endroit. Il est avec ses potes, il mange de l'herbe, mais c'est pas ça. Lui, il doit chasser. Il est pas à sa place. Il est pas à sa place physique. Il est pas à sa place mentale. Il est pas à sa place émotionnelle. Il a ses potes. Ok, c'est bien Hakuna Matata, mais est-ce qu'on peut tenir toute une vie avec Hakuna Matata? Et donc,
Marianne Chaillant prendra la parole ensuite. On avait déjà eu un débat dans une précédente émission sur doit-on sortir ou non. Hakuna Matata? Est-ce qu'on essaie d'arrêter Hakuna Matata? Est-ce qu'il y a des cliniques qui traitent
Donc voilà, et donc Julie Taymor, elle a aussi voulu, et c'est lié aussi après avec l'adaptation qu'on en a fait en français, aller chercher quelque chose de plus noir, de plus difficile. Et dans la chanson de Simba, si à un moment il s'écroule par terre, c'est qu'il est au bord du suicide, parce qu'il n'a pas ses solutions et que le message qu'il avait cru comprendre de son père, en fait, il l'a pas compris. C'est parce qu'il a d'autres choses encore à comprendre, et que donc Rafiki, l'être spirituel, va venir lui faire prendre conscience de certaines choses, sans lui dicter, mais en lui montrant que c'est en lui que ça se passe. Donc, sur tous les personnages, vraiment, c'est une magnifique pièce de théâtre.
Julien Baldacchino, il y a aussi des grands absents qu'on n'a pas cités et qui ont fait aussi le succès du dessin animé avant même le... Ce sont les comédiens de doublage. On a évoqué Jean-Pia qui a posé sa voix sur Scar. Jean Reno qui avait fait Mufasa. On pense à la doubleuse de Whoopi Goldberg. Le nom va me revenir. Je vais surtout chercher sur Internet. qui a incarné une des hyènes. Ça aussi, c'est ce qui m'a marqué en voyant la comédie musicale, c'est que même les artistes que vous avez choisis ont une texture de voix qui est très très proche des comédiens de doublage qui ont fait la version de 94. Est-ce que ça, c'était quelque chose dont vous étiez conscient, ou c'est le rôle qui a de toute façon cette voix?
Alors c'est le rôle qui a cette voix, dans le sens où, en donnant les directions de jeu et les intentions, et puis que chaque comédien travaille son parcours de rôle, c'est lié en fait. C'est lié à l'intention qu'il doit donner, c'est-à-dire que, effectivement, on va avoir un Pumbaa qui a un côté très maternel, qui a envie d'aider, qui est très... Donc il va forcément, naturellement, aller dans ses graves. On va avoir un Zazu qui veut que les choses soient parfaites, qui est un majordome, qui est réglé comme du papier à musique. Lui, c'est la perfection. Et puis, c'est ce côté de déplacement de l'artiste comme une geisha, parce qu'en fait, lui, il se déplace comme une geisha, d'où l'influence japonaise du personnage de Zazu, pour que justement le comédien plane et qu'on voit l'oiseau qui vole par la manipulation de la marionnette. Donc, il y a quelque chose forcément qui va de manière légère. Mais on veut absolument pas que les artistes prennent des voix de dessin animé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand on fait travailler les artistes pour les auditions, ou quand on est en travail et qu'on laisse la marionnette de côté, qu'on revient à soi et qu'on reprend la marionnette, automatiquement il y a un changement de voix, dont des fois les artistes ne sont même pas conscients. Le fait que tout d'un coup ils prennent dans leurs mains la marionnette, qu'elle l'une ou l'autre, leur voix change. Alors des fois
c'est comme Bruce Wayne quand il met son masque de Batman.
C'est ça. Et c'est très 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 intéressant. Mais on fait vraiment en sorte de ne pas fabriquer une voix. Faut que ce soit par le jeu, par la situation, par le contexte, par l'objectif à atteindre du rôle, que la voix va se placer naturellement. Et c'est pour ça que on a des comédiens fabuleux, parce que ils font tout ça en même temps. Chapeau.
Marianne Chaillant, on a parlé de Hakuna Matata. J'aimerais qu'on parle de la signification de cet Hakuna Matata. Est-ce qu'on peut vivre, ou est-ce qu'on peut passer sa vie dans cette petite parenthèse Hakuna Matata, ou non?
Ah. Alors, je vous dis comment je l'ai analysé, toujours dans cette perspective stoïcienne du dessin animé. Il faut peut-être rappeler le contexte de cette chanson, à quel moment de l'histoire elle arrive. Mufasa vient de mourir, Scar a fait croire à Simba qu'il était responsable de cet événement, que sans lui, son père serait toujours vivant, et il lui dit « Fuis, pars, sauve-toi et ne reviens jamais ». Simba part dans le désert, il est poursuivi par les trois hyènes affamées qui ont pour ordre de le tuer. Simba leur échappe.
Les trois hyènes en deux mots,
s'effondre. Pardon ?
Les trois hyènes en deux mots. Parce qu'il y a, les amateurs de lettres classiques qui disent « Ripide a écrit sur le roi lion ».
Oui, voilà, évidemment. Et donc Simba s'enfuit dans le désert, il s'effondre inanimé et il serait mort s'il n'avait pas été découvert par deux étranges personnages, Timon et Pumba, qui vont le sauver. Et qui vont donc, Timon va lui dévoiler sa sagesse, qui va avoir un pouvoir énorme sur Simba. Et cette sagesse, c'est Hakuna Matata, c'est cette fameuse chanson qui a donc un pouvoir de résurrection sur Simba, parce que il veut mourir quand les deux viennent le trouver. Il lui demande, il leur dit laissez-moi, il a plus du tout, il a plus envie de vivre. Et là, Timon le ramène à la vie. Ce que je me suis dit, c'est que cette chanson contenait manifestement un grand pouvoir, puisqu'elle va libérer Simba de son affliction, elle va le convertir à une forme de quiétude, alors qu'il est complètement tourmenté au moment où ses deux compères le trouvent, et il est converti à une quiétude que les philosophes stoïciens appellent l'ataraxie, l'absence de trouble. Et pour moi, c'est pas anodin que tout ça se passe ensuite dans une oasis en plein désert. Parce que les stoïciens ont une image, ils nous disent que si on arrive à discipliner notre esprit, à travailler sur nous-mêmes, on peut bâtir une citadelle intérieure qui nous rend invulnérables face à l'adversité. Et vous voyez, l'adversité, là, c'est le désert, la citadelle intérieure, c'est l'oasis. Dans cette oasis, Simba, Timon et Pumba vont arriver à jouir ici et maintenant, hic et nunc, en s'étant débarrassés de tout ce qui pourrait venir contrarier leur moi. Alors là, il faudrait aller relire le philosophe Marc Aurèle qui nous explique, et c'est ce que fait Timon, vraiment. Je sais, ça peut être drôle, mais Timon dit à Simba les mêmes choses que Marc Aurèle peut dire à ses lecteurs. Ne t'inquiète pas de ce que les autres peuvent penser ou dire de toi, ce que les lions peuvent dire de ce qui s'est passé. Ne cesse de ressasser le passé. Mufasa est mort. Mais bon, c'est le passé. Ne pense pas au passé. Ne pense pas à l'avenir. Ne te demande pas non plus, ne sois pas troublé face à la mort, qui est un événement naturel. Oui, ton père est mort. Mais encore une fois, cesse de surréagir et admet cet événement comme un événement de la nature. Et enfin, comprends que la destinée t'échappe et que, en comprenant que le destin t'échappe, tu t'élèveras au-dessus d'elle, tu parviendras à l'ataraxie. Et cela, en chantant Hakuna Matata, voilà donc, je pense, une chanson stoïcienne que tout le monde connaît. Et voilà, quand on nous invite à nous libérer de nos soucis et à vivre avec philosophie, on peut chanter ça, ou on peut relire les stoïciens. Les vertus sont les mêmes dans les deux cas.
Marianne Chaillant, ce qui est terrible, c'est que maintenant, j'imagine Marc Aurèle en train de manger des chenilles avec un facochère qui lâche des pets dans la savane. C'est terrible. Hein. Là, je ne sais pas si vous avez aidé Marc Aurèle ou pas.
Là, vous parlez de Pumba. Moi, je vous parlais de Timon.
Ben oui, mais il n'y a pas Timon sans Pumba. Mais en fait,
c'est vrai.
Pour revenir, parce que je suis totalement d'accord avec votre analyse, mais je me suis posé la question. Est-ce qu'on peut pas aussi dire que d'une certaine manière, Simba sauve Timon et Pumba également? Parce que ces deux marginaux qui, eux aussi, vivent dans cette oasis, qui est une sorte de... Pour moi, c'est un peu comme les lotophages du voyage d'Ulysse, c'est-à-dire on mange des chenilles et on oublie le passé, etc. De par le fait que Simba choisit par lui-même de reprendre le cours de sa vie, il les extirpe aussi de cette oasis et on se rend compte que Timon et Pumba étaient aussi demandeurs de refaire partie d'un cycle de la vie. Donc c'est pour ça en fait que je me suis toujours demandé si effectivement c'est Timon et Pumba qui sauvent Simba, mais est-ce qu'ensuite c'est pas Simba qui sauve aussi Timon et Pumba? Je pose la question.
Non, mais je pense que c'est la réalité, parce qu'il faut pas oublier que Timon et Pumba, parce qu'on l'oublie, parce que par leur exubérance et autres, ce sont deux vagabonds, deux bannis. Ils sont bannis. Ils ont été rejetés par la société entre guillemets, et ils sont dans cette oasis, mais ils se cherchent aussi. Et ils ont le même parcours initiatique que Simba. Donc quand Simba part, d'ailleurs, il se pose la question. Et à un moment donné, il bascule. Il bascule vers la liberté aussi, et vers leurs obligations pour renaître. C'est la renaissance, c'est le cercle de la vie, quoi.
Véronique ?
Mais oui, justement, en fait, ils sont là, en fait, ces deux petites frappes, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais en fait, ils ont atterri là, et eux, ça leur va bien. Ben, en fait, c'est intéressant, parce qu'effectivement, ce Hakuna Matata aide Simba jusqu'à un certain point, c'est-à-dire de passer de l'enfance à l'adolescence. Et effectivement, quand on commence à chercher, à savoir qui on est, même de manière inconsciente, ben voilà, on est face à notre destin et à ce qui se passe. Donc, en fait, il y a quelque chose qui cloche vraiment chez Simba. Et puis, chez Timon et Pumba, ben, ça arrive plus tard. Et en fait, ils se disent, ben en fait, on l'a élevé. C'est notre enfant, c'est notre ami, c'est notre frère. Il faut qu'on aille l'aider. Et ben ça, ça a été leur chemin d'apprentissage pour retourner dans la vie et prendre leur place parce qu'ils l'ont fui aussi.
Julien Baldacchino.
Ce sont des personnages secondaires qui, contrairement à beaucoup dans pas mal de films Disney, ont un vrai rôle dans le film. Souvent, les personnages secondaires apportent un ressort comique, ils jouent deux, trois petits rôles, effectivement, dans le déroulé de l'action. Si on est cynique, on peut dire aussi qu'ils sont là pour faire vendre de la peluche ou de la série dérivée. Mais Timon et Pumba, ils ont une vraie place dans la dramaturgie du film et puis dans le déroulé philosophique, effectivement, dans la prise de conscience de Simba. Et effectivement, ce sont deux personnages. Alors, il y a un Roi Lion 3 qui est un peu méconnu, qui s'appelle en version originale le Roi Lion 1 et demi, puisque son action se déroule pendant l'histoire que l'on connaît du Roi Lion.
Et tout est vu du point de vue...
Exactement, du point de vue de Timon et Pumba, il nous montre comment ils sont devenus tout seuls. Alors, Pumba, on le sait un peu parce que c'est raconté dans la chanson Hakuna Matata, mais Timon, c'est quelqu'un qui a été délaissé par sa tribu de mangoustes, parce que les mangoustes vivent toujours en tribu. Ce sont des solitaires qui se sont trouvés, qui trouvent un troisième compère et qui vont ensemble, finalement, réussir à se trouver. Et d'ailleurs, Timon et Pumba finissent par suivre Simba au risque de leur vie et en abandonnant leur petit paradis sur Terre pour trouver eux aussi une place dans cette famille, finalement.
Bon, Marianne Chaillant, vous voyez que Hakuna Matata, ça fait parler, hein. Ça fait chanter et ça fait parler. Hein. Je pense qu'il y a autant de visions d'Hakuna Matata qu'il n'y a eu de spectateurs. Alors si on cumule les spectateurs du dessin animé et ceux de la comédie musicale, je pense qu'il va falloir ouvrir un département spécialement consacré à Hakuna Matata. Vous venez d'entendre l'histoire de la vie version comédie musicale du Roi Lion. Donc, le Roi Lion, c'est un dessin animé qui a triomphé. C'est une comédie musicale qui a triomphé. C'est des jeux vidéo qui ont triomphé aussi, parce que je n'oublie pas les versions pour Super Nintendo et Mega Drive, ce jeu de plateforme, qui ont cartonné. C'est un film en images de synthèse qui, même si on n'a pas aimé Scar, réalisé par Jon Favreau, qui a cartonné. Beyoncé faisait la voix de Nala dans cette version et du coup a fait un album autour du Roi Lion qui s'appelle The Gift, qui a cartonné aussi. Julien Baldacchino, comment expliquer qu'au niveau mondial, on a réussi à faire autant de succès sur une histoire qui n'a pas changé finalement?
À mon avis, c'est ce qui fait qu'on est là aussi tous autour de cette table depuis une heure à parler d'une œuvre de dessin animé à la base. C'est que C'est une œuvre qui va beaucoup plus loin, qui va chercher des choses très philosophiques, qui est d'abord un récit initiatique, donc qui raconte des choses par lesquelles, a priori, nous sommes tous et toutes amenés à passer à un moment dans notre vie. Le passage de l'enfance à l'âge adulte, mais aussi le deuil, mais aussi le fait de prendre des responsabilités dans la vie, comment on se confronte à ces responsabilités. Donc déjà, le film en lui-même évoque des choses extrêmement universelles. Et puis par-dessus ça, on a des personnages qui sont extrêmement attachants. Tous, que de Simba, personnage principal, à Zazu, le majordome, tous les personnages, toute la galerie de personnages est extrêmement attachante. Tous les personnages, par ailleurs, sont bien animés, bien dessinés. Ils donnent envie de s'y attacher. Il y a les chansons dont on a parlé.
Elton John qui touche des droits d'auteur.
Elton John qui, à chaque diffusion, touche des droits d'auteur.
Mais c'est il n'en avait déjà pas besoin avant le Roi Lion, mais...
À chaque fois qu'on remet une pièce dans la machine du Roi Lion, ça marche. Et ce qui est fou, c'est qu'on a aussi l'impression que Disney apporte un soin à ne pas trahir cette mémoire-là, ce qui n'a pas toujours été fait avec d'autres dessins animés et d'autres succès, mais les suites du Roi Lion sont plutôt de bonnes suites, ce qui n'est pas le cas de toutes les suites Disney.
Et même la série La Garde du Roi Lion, que moi je n'avais pas particulièrement repéré, fait partie des séries préférées des enfants qui ont vu le Roi Lion et ils disent oui, c'est l'histoire de la fille de Simba, etc. Et justement, les griefs qu'on pouvait reprocher au Roi Lion d'être très très masculin, parce que on se demande pourquoi Nala et Sarabi, les lionnes, au bout d'un moment, ne virent pas Scar pour gérer la savane, vu qu'elles font déjà tout.
Alors, effectivement, c'est quelque chose que règle un petit peu le Roi Lion 2 et la garde du Roi Lion. C'est quelque chose qui est déjà réglé, en partie, dans la comédie musicale où Nala s'enfuit, où on voit la fuite de Nala avec une scène entre Scar et Nala qui est extrêmement forte. Et dans le film, pour le coup, je disais tout à l'heure que Scar, dans le film, n'était pas le personnage le mieux rendu. En revanche, Sarabi, la reine, l'épouse de Mufasa, est un personnage qui a une dignité déjà dans le dessin animé, qui fait d'elle une reine. Elle a très peu de lignes de dialogue, mais quand elle est là, elle en impose. Plus, je dirais, que Mufasa. Et dans le film, elle est encore mieux rendue. Son personnage a une personnalité encore plus forte. Elle est la chef des lions et des lionnes. Des lionnes, en l'occurrence, puisque c'est un troupeau, c'est un lion pour des lionnes. Et c'est quelque chose qui, avec le temps, s'est affirmé de plus en plus. La présence des personnages féminins, peu nombreux, mais existants tout de même dans la saga Le Roi Lion.
Laurent Mentata, j'ai l'impression justement que c'est l'importance de ces personnages féminins a été valorisée dans la comédie musicale par rapport aux dessins animés ou aux autres versions qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant.
Oui, ce que Véronique expliquait tout à l'heure, l'apport de Julie Taymor, il est là en grande partie. Alors non seulement bien sûr Rafiki, qui est incarné par une femme, mais Nala qui Et il y a plusieurs messages, la confrontation, enfin la relation entre Nala et Scar, on est dans le harcèlement, on est vraiment dans le harcèlement, et elle se révolte, mais avec force, et elle est même...
Il y a un Me Too de la savane, là.
Exactement, elle est même au-dessus de Simba dans le spectacle, elle est plus forte que Simba, même dans la confrontation, et c'est pas un hasard, donc, et c'est elle qui va le chercher quand même aussi, faut pas l'oublier, donc c'est le pouvoir de la femme, et il est, Julie Taymor l'a magnifié, ça c'est évident, et c'est la grande trouvaille de d'ailleurs même hein, le cercle c'est même une nourricière aussi, enfin c'est la femme, donc c'est la femme qui donne la vie, donc c'est ce qu'a apporté vraiment Julie Taymor, et le spectacle rend hommage à la femme.
Véronique.
Oui, je vais rebondir pour dire la même chose que Laurent. Mais oui, effectivement, en fait, elle part. C'est une guerrière, Nala. C'est vraiment une guerrière. C'est elle qui part. Et peut-être ça fait un petit peu connexion avec des hommes et des femmes qui partent de chez eux parce que en fait, c'est le désarroi et la désolation totale. Et donc, ils doivent partir quelque part dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, en ayant en vue de chercher des solutions, ne sachant pas laquelle, parce qu'elle sait pas qu'elle va retrouver Simba du tout. Elle part sans savoir que ce qui va se passer, en fait. Mais elle se dit, je ne peux pas rester ici, c'est plus ma place, et ma place est de partir, et de chercher. Elle a la foi, et en même temps, ça, elle est connectée à sa famille, à sa terre, et elle reviendra avec une solution. Et donc, en plus, il fuit quand elle le rencontre. Hein. Lui, il est là, non, Hakuna Matata. Et puis, elle lui dit ce qui se passe, parce qu'il n'est peut-être pas au courant. Et donc, elle ne comprend pas. Elle est complètement... Donc, il y a même une scène de dispute. Et c'est, en même temps, des moments qui vont être des moments déclic pour lui, parce qu'ensuite, il va rencontrer Rafiki, qui va faire le lien et qui va donner les dernières touches pour lui faire prendre conscience qu'il doit bouger et qu'il peut plus rester ici. Donc voilà, c'est ces deux femmes qui le font avancer.
Vous venez d'entendre Spirit de Beyoncé, extrait de la bande originale du film Le Roi Lion, réalisé par Jon Favreau en 2019. Beyoncé, qui toujours en 2019, a produit The Lion King, The Gift, un album inspiré par le film Le Roi Lion. Alors, là, ça cartonne à Mogador. Vous vous arrêtez le 14 juillet, si je ne m'abuse ?
Ouais, mais peut-être qu'on fera juste une pause.
Voilà, donc j'ai pas eu. Je me disais, bon, alors qu'est-ce que je vais trouver pour réussir à savoir si ça va être prolongé ou ce genre de choses. Mais il n'y a aucune raison pour que ça ne continue pas, enfin.
Bah, aujourd'hui, le public en demande.
En plus, cette émission va être rediffusée cet été, donc. donc moi, je dis ça pour vous, hein, après.
Non, mais il faut qu'on revienne. Enfin, je pense que. Voilà, on est même nous, pas agréablement surpris, mais de voir. L'appétence du public français. On a toujours dit que les Français n'étaient pas friands de comédie musicale et ne pourraient pas...
On dit beaucoup de choses sur les Français de manière générale, mais...
Mais je pense que c'est faux et je pense qu'on apprécie, on sait apprécier aussi les belles choses et les bonnes choses et ce spectacle, encore une fois, cette expérience en fait partie. On communique actuellement et on cherche toujours un superlatif pour caractériser ce spectacle. On a mis phénoménal, je pense que... On passe au-delà du spectacle au chef-d'œuvre, peut-être. En tout cas, c'est une œuvre. C'est une œuvre à voir et à partager et à revoir. On voit beaucoup de gens qui reviennent. Alors, c'est vrai, quand on a joué en 2007, on voit des gens qui étaient tout jeunes quand ils sont venus le revoir en 2007. Et puis, on a des belles histoires, puisqu'on a même un petit Simba qui joue petit Simba en 2007, qui a joué grand Simba avec Gwendal Marimotu, qui a joué grand Simba, en tout cas sur la deuxième. La deuxième partie de quand on a repris le spectacle. Donc voilà, oui. Oui, nous, c'est le public qui décide si on. C'est comme les jeux du cirque, hein, si on doit continuer ou pas. Et l'envie est là et les gens sont là et je pense qu'ils prennent avec autant de plaisir dans un beau lieu. Encore une fois, il fallait aussi avoir un lieu particulier pour accueillir le Roi Lion. C'est quand même un. Spectacle qui fait travailler 150 personnes plus de 150 personnes tous les soirs. Donc, c'est une vraie machinerie derrière, avec plein de corps de métier, des gens passionnés, des artisans qui contribuent aussi au succès de ce spectacle.
Et le Roi Lion risque aussi de revenir sur grand écran avec un préquel qui est prévu sur la jeunesse de Mufasa. Si je ne m'abuse, Julien Baldichino, vous en avez entendu parler ?
Oui, il va s'appeler Mufasa et on n'en sait pas grand-chose. Il doit sortir en fin d'année. Alors ça, c'est peut-être décalé par rapport à la sortie de Vaiana 2.
N'était pas prévu pour être sur le grand écran, mais qui tout d'un coup va être rapatrié, qui devait être sur Disney+, et qui finalement va être rapatrié sur...
C'est ça.
Ça va bien chez Disney en ce moment.
Oui, alors c'est un peu cette stratégie de sortir des films en cinéma, d'autres en plateforme, et puis finalement de revenir en arrière parce qu'on se rend compte que le cinéma, ça marche encore.
Mais oui.
Et donc Mufasa, qui normalement doit sortir en fin d'année, peut-être un petit peu plus tard, racontera la jeunesse du roi Mufasa et ses relations avec
avec son frère, Scar. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est effectivement, vu quelques toutes petites images qu'on a vues, que Mufasa serait un lion adopté. Mais c'est le seul élément qu'on a de ce film.
Après Hamlet, on va revisiter Moïse.
Mais c'est un peu ça, on en parlait tout à l'heure, on parlait de phénomènes, mais vous avez eu les influences, qu'on a parlé de la mythologie grecque, on a parlé de la Bible, on a parlé de Shakespeare. Ça fait beaucoup quand même pour une belle œuvre, pour un dessin animé.
À Blockbuster, on appelle ça un mardi. J'aimerais citer également Maïk Dara qui interprétait Shenzi, la comédienne de doublage, mais également Med Hondo qui faisait Rafiki, Michel Elias qui faisait Pumba, Jean-Philippe Puymartin qui faisait Timon dans le dessin animé de 1994, parce que vous savez qu'à Blockbuster, on aime les comédiens de doublage. C'est souvent des gens qui sont trop peu cités, alors qu'il y a un apport essentiel dans la manière dont les œuvres se sont propagées, et particulièrement à une certaine époque, moins maintenant parce qu'on a la possibilité d'avoir la VO, mais eux, ils ont été déterminants. Je vous remercie tous et toutes d'avoir participé à cette émission. Merci Laurent Bentata.
Merci à vous.
Merci Véronique Bandelier.
Merci
Marianne Chaillant. Merci Julien Baldacchino.
Merci.
L'émission a été réalisée par Marion Lelay. Elle a été préparée par Lisiane Larbani. Et à la technique, aujourd'hui, Alex Olarewa joue au Tinois. Et vous pouvez nous laisser un message au 01 56 60... Attendez, 01 56 40 30 20. Oui, j'ai eu un mini AVC, c'est normal, hein, 01 56 40 30 20. Ou parlez avec moi directement sur Instagram, vous tapez Fred Sigrist, vous me posez des questions et je vous réponds. À bientôt.
Hakuna Matata. Mais quelle phrase magnifique!
Hakuna Matata. Mais quel chant fantastique!
Ces mots signifient que tu vivras ta vie
sans aucun souci, philosophie.
Hakuna Matata.
Blockbuster est un podcast original de France Inter.